Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le saviez-vous, les religieuses Xavières fêtent leurs 100 ans. Encore un anniversaire, me direz-vous, pour qui suit la vie de l'Église. Il est vrai que les anniversaires se succèdent et peuvent finir par laisser un peu indifférent. Et pourtant, comme pour chacun, un anniversaire pour une communauté, ce n'est pas rien, peut-être même rien moins que le souvenir du grand désir de Dieu qu'elles existent, tout simplement. 110 religieuses aujourd'hui réparties à travers le monde, des femmes de caractère qui entendent, tenez-vous bien, rien moins que participer au règne de Dieu. Des femmes qui ont publié récemment un livre de relecture spirituelle de la crise du Covid. À la découverte des Xavières, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce mercredi. On essaye de parler de la vie de l'Église dans le française et dans le monde. Ça tombe bien, on va faire connaissance avec vous pour tous ceux qui ne vous connaissent pas. Autour du plateau, il y a du monde. Christine Danel, vous êtes supérieure générale des Xavières. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Paris. Est en plateau, Odile Hardy, vous êtes théologienne, directrice de l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse, et co-auteur d'un ouvrage dont on parlera, c'est maintenant le temps favorable, 5 regards de femmes sur la crise, paru aux éditions de l'Emmanuel. Bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs reconnaissent peut-être votre voix parce que vous intervenez de temps à autre à l'antenne, comme les deux autres, Bénédicte Lamoureux, vous êtes directrice des Cotopaïs. Bonjour.
Bonjour.
Et avec nous aussi Sophie Beauchamp, vous êtes membre de l'équipe des Cotopaïs. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc toutes les quatre des religieuses Xavières. Ça se voit pas forcément du premier coup d'œil, puisque vous êtes habillées, on va dire, civilement. Vous avez même des jolies chaussures et parfois des petites jupes. mais vous avez une petite croix, on vous distingue. Ça dit un petit peu quelque chose de ce que vous êtes. Et puis, je ne sais pas si toutes les Xavières sont comme vous, mais vous êtes des femmes de tempérament. En tout cas, vous avez de l'ambition comme votre fondatrice. On va le découvrir. Christine Danel, comment vous... En quelques mots, en introduction, comment vous présenteriez les Xavières ?
Alors, écoutez, les Xavières, comme vous l'avez dit, ce sont des femmes, nous sommes religieuses, donc nous faisons les vœux religieux, pauvreté, chasteté, obéissance, nous sommes bien dans l'Église, et on pourrait dire, nous définissons comme passionnées du Christ et passionnées du monde, c'est-à-dire vraiment des religieuses ignatiennes, donc de la spiritualité de Saint Ignace, qui est le fondateur des Jésuites. Donc Claire Monestès, notre fondatrice, a été très imprégnée par cet esprit ignatien et passionnée du monde parce que justement nous cherchons et trouvons Dieu dans le monde. Voilà, c'est un peu ce qui nous caractérise vraiment. Envoyé dans le monde d'aujourd'hui.
Alors, on y reviendra un peu plus tard, mais une des actualités en dehors de votre anniversaire qui fait qu'on a entendu parler de vous dans la presse, c'est donc la publication de cet ouvrage. C'est maintenant le temps favorable, 5 regards de femmes sur la crise. Alors, vous en avez écrit la préface, mais vous ne faites pas partie des auteurs, mais on imagine que vous étiez un peu dans le coup.
Oui.
pourquoi c'était, selon vous, un peu la bonne manière de faire entendre votre voix à l'occasion de votre anniversaire que de voir cet exercice un peu de relecture spirituelle de la crise que l'on traverse. En quoi est-ce à votre image ?
Eh bien, écoutez, c'est une bonne question. En fait, justement, notre souhait, c'est de chercher et discerner les signes de l'esprit à l'œuvre dans notre monde. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire... Comment est-ce que dans une crise, c'est justement ce moment favorable pour trouver Dieu, le reconnaître à l'œuvre malgré les épreuves et dans les épreuves que nous traversons. Donc finalement, c'est en quoi c'est un moment favorable pour discerner sa présence et puis se mettre davantage à sa suite, être responsable, co-responsable avec d'autres, pour pouvoir sortir de cette crise et voilà, en sortir meilleur surtout peut-être.
En tout cas, vous avez une postface de Jean-Pierre Denis, qui est journaliste et écrivain, qui a longtemps été le directeur de la rédaction du journal La Vie, qui aujourd'hui travaille pour le groupe Bayard, qui semble-t-il a été inspiré, et puis qui a cette phrase de conclusion: dans un monde obscur, il reprend des mots de... Ah non, vous, Odile Hardy, c'était un monde devenu opaque. Dans un monde obscur, seule l'espérance est lucide. Et ça dit, voilà, probablement l'intention profonde de cet ouvrage. Alors, si on commence par le début, vous avez une fondatrice, comme à chaque fois. Alors, Alors l'idée, c'est pas forcément qu'on fasse, de l'archéologie de l'histoire de votre congrégation, mais quand même un peu les fondements. Là, c'est une certaine Claire Monastès, donc née en 1880, décédée en 1939, qui est votre fondatrice. Elle fait des vœux, donc des vœux privés, si j'ai bien compris, où elle se consacre à Dieu, donc en février 1921. À Marseille. Et alors, à lire rapidement donc, quelques mots sur elle, c'est une femme en fait qui décide de se consacrer en toute discrétion, si j'ai bien compris, mais qui sent que se joue là quelque chose de plus grand qu'elle, c'est ça, elle a dès les débuts l'intuition qu'il va y avoir quelque chose.
Tout à fait. En fait, c'est une femme qui a subi beaucoup d'épreuves dans sa vie, en ce sens, je pense qu'on peut se retrouver très proche d'elle dans les temps actuels. Elle est née à Chambéry, il y a la ruine de son père, elle essaye de fonder un institut et puis finalement elle est rejetée de cet institut. C'est juste après la Première Guerre mondiale et finalement elle ne sait plus très bien où est-ce qu'elle en est. Donc elle est accompagnée, aidée par un père jésuite et finalement dans cette épreuve de sa vie, elle ne sait plus très bien où elle en est. Il y a une femme qui la rejoint, elle continue à être très apostolique, elle cherche... à rejoindre les gens là où ils sont. Et finalement, c'est cette femme qui la rejoint, qui s'appelle Léonie Fabre, et qui lui dit « Mais moi, j'ai envie de vivre quelque chose avec vous. » Et donc, finalement, elle se retrouve presque fondatrice malgré elle. Et donc, elle prononce ses vœux vraiment dans la foi. Et donc, effectivement, elle se dit bah, « Là, il y a quelque chose qui est en train de naître. » Et finalement, c'est à la relecture. Bien sûr, son désir de Dieu est très grand. Qu'elle se rend compte que bah, la Xavière est née à ce moment-là. Et puis progressivement, il y a des femmes qui la rejoignent et qui se joignent à elle pour pouvoir suivre ses intuitions missionnaires.
Alors justement, Xavier, il faut expliciter d'où ça vient. Ça vient donc de Saint François Xavier, puisque c'est à l'occasion aussi d'un anniversaire, je crois, la célébration des 300 ans de la canonisation d'Ignace de Loyola et de François Xavier. Donc c'est en 1922, donc juste après. François Xavier, c'est donc un grand missionnaire. Hein, il est parti... évangéliser une partie de l'Asie. Elle avait quoi une fascination pour cet homme, cet apôtre bien particulier.
Oui, tout à fait. En fait, elle avait une grande admiration et une admiration pour son élan missionnaire et son audace. Et donc, c'est pour ça qu'elle a pris ce nom de Xavière, effectivement, en référence à Saint-François Xavier, donc un des premiers compagnons d'Ignace. Et donc, c'est vraiment cet élan missionnaire et cette audace qui la marque beaucoup et qui fait qu'elle a souhaité que ses filles, comme elle dit, prennent ce nom de Xavière.
Alors à propos de l'histoire d'Xavier, je ne sais pas sur quel moment vous voulez vous arrêter, parce que j'ai compris qu'en fait ça avait grandi, mais tout doucement, et que dans le fond, le développement un peu d'Xavier date de l'après-concile, c'est ça?
Alors oui, Claire Monastès meurt très vite, hein, à la veille de la Première Guerre mondiale, elles sont cinq, elles survivent, j'allais dire, à la guerre mondiale. Et puis progressivement, des femmes les rejoignent. Et on pourrait dire qu'il y a une deuxième fondation au moment où Marie-Henriette Calais, donc une supérieure générale qui succède à celle qui a maintenu la Xavière pendant plusieurs années, dans les années 57. Et à ce moment-là, elle s'approprie beaucoup le souffle de Vatican II, qui est vraiment pour elle une manière... actuelle et actualisée de redire le charisme de cette congrégation et de la Xavière, avec vraiment cette intuition que Dieu présent dans le monde et que on est vraiment attentive aux tristesses, aux joies, à tout ce qui fait la vie des gens, des hommes et des femmes de notre temps, et que ça, c'est quelque chose qui rejoint les Xavières. Et donc, la Xavière grandit à ce moment-là, avec au moment où finalement dans l'Église la vie religieuse traverse des moments difficiles, paradoxalement,
oui, c'est ça, oui, c'est l'impression
on
que ça
grandit.
Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, vous êtes près donc de 110 religieuses réparties donc en 20 communautés en Europe, en Afrique et au Canada. Comment vous définiriez un peu votre non à propos de l'habit, je taquinais vos sœurs avec l'habit, mais c'est vrai que ça dit quelque chose de profond quand même sur l'intention de votre congrégation. En plus, vos sœurs me disaient qu'avant, vous n'aviez pas de croix non plus. Il faut aussi contextualiser, dans les années 30, une femme qui se consacre et qui veut vivre dans le monde comme ça, un peu cachée, sa vie religieuse, c'était en fait très, très prophétique, non ?
Oui, alors c'est aussi, je pense, la période de la séparation de l'Église et de l'État, où en fait en 1920, il y a quand même, enfin, c'est-à-dire depuis 1904, hein, donc en fait les congrégations religieuses sont un peu, on leur demande de partir, ou en tout cas, et donc il y a aussi tout un mouvement pour pouvoir continuer sa vie religieuse dans le monde, ben, finalement il faut peut-être se faire un peu discret, et je crois que pour notre fondatrice, c'était aussi une manière de rejoindre toute personne. Et l'idée, c'est vraiment ce compagnonnage avec tout un chacun. Et pour ça, parfois, ben, quand on a un habit religieux, on peut être catégorisé d'une certaine manière et que ça puisse mettre une barrière. Et donc, l'objectif d'avoir un habit religieux, c'est pas de se cacher, mais c'est vraiment l'objectif de pouvoir rejoindre tout un chacun dans des milieux très divers. Et justement, bah, pas forcément catégorisé religieux d'emblée, quoi. Donc, ça, c'est vraiment une vision apostolique et j'allais dire missionnaire que de pouvoir rejoindre tout le monde sans habit et sans parfois quelque chose qui peut être de l'ordre d'un obstacle finalement.
Christine Danel, on profite de votre présence, on donnera la parole aux autres plus longuement après. Peut-être avant qu'on fasse une première pause musicale, est-ce que vous pouvez nous emmener dans quelques-unes des missions qu'ont les Xavières à travers le monde ? Vous avez, semble-t-il, comme souvent pour les femmes consacrées, donc une attention, on va dire, aux plus pauvres, aux situations difficiles. Si vous deviez nous emmener dans une ou deux missions à travers le monde, lesquelles, où est-ce qu'on pourrait aller avec vous ?
Eh bien, écoutez, on pourrait aller, par exemple, à Abobo, ce qui est en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où il y a des clubs de la paix qu'on essaye de rejoindre les plus jeunes, les enfants, ceux qui sont les plus pauvres et qui ont besoin de construire une vie avec de l'espérance, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, grandir, être des hommes, des femmes debout. Et donc voilà, ces clubs de la paix à Bobo, à Abidjan. Et puis le deuxième lieu où je pourrais vous emmener, ben, c'est à la maison médicale Jeanne Garnier, qui est voilà cette
en région parisienne cette fois.
Voilà, en région à Paris même, dans le 15e, une mission auprès des personnes qui sont en fin de vie. Et je pense que l'actualité aujourd'hui, justement sur comment la façon de mourir aujourd'hui, je pense que les soins palliatifs et cette maison est un peu un phare et un signe d'espérance. Et de voilà de l'action et de ce qu'on essaye de vivre aujourd'hui pour donner de l'espérance et un peu de douceur, j'allais dire.
Eh ben merci Christine Danel, on va faire une première pause et puis on va continuer à faire connaissance avec les Xavières, essayer de comprendre un peu plus votre particularité, votre couleur dans l'Église, votre charisme. On parlera donc aussi de ce livre. C'est maintenant le temps favorable, 5 regards de femmes sur la crise. Et puis je le dis aussi en souriant, mais c'est peut-être une manière d'aider les auditeurs à comprendre que ces femmes essayent profondément de les rejoindre. Vous m'avez fourni avant l'émission un numéro de Dialogue, qui est une de vos revues, et on voit plus de femmes en tailleur que de femmes en habit dans cette revue, avec des beaux sourires.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
À la découverte d'Exavier, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, était avec nous au début d'émission Christine Danel, qui est supérieure générale d'Exavier, qui était en direct depuis Paris. Et sont avec nous Odile Hardy, théologienne, directrice de l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse, Bénédicte Lamoureux, directrice des Cotopaïs, et Sophie Beauchamp, membre de l'équipe des Cotopaïs, mais surtout, toutes trois religieuses Xavier. C'est par ça que j'aurais dû commencer. À chaque fois, quand on découvre une famille spirituelle, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, quel signe distinctif, qu'est-ce qu'elle porte, on va dire, plus profondément peut-être que d'autres. Et alors, il y a une chose pour vous, les Xavier, donc, qui m'a frappé. Votre fondatrice donc, a été frappée à l'occasion d'exercices spirituels, donc selon la spiritualité ignatienne, donc de Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, votre supérieur général en a parlé au début. C'est une méditation sur le règne. Sophie Beauchamp, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça veut dire quoi, en fait, qu'est-ce qui l'avait frappé et à sa suite, qu'est-ce que vous essayez de vivre?
Alors cette méditation, elle fait partie donc du parcours des exercices spirituels, un moment important où le retraitant entend l'appel à suivre le Christ et en offrant toute sa personne. Et donc, Claire Monestès, dans...
Alors juste pourquoi méditation sur le règne, en fait, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on contemple à ce moment-là des exercices?
On contemple le Christ, alors, roi de l'univers, qui appelle à se mettre à sa suite dans une dynamique missionnaire. Ignace fait un parallèle entre un roi temporel, donc comment on répondrait à la demande d'un roi temporel, et combien plus le Christ, roi de l'univers, s'il m'appelle, combien plus je dois lui répondre en lui offrant toute ma personne, et lui répondre en l'imitant dans la peine et dans la joie. Il y a la dimension aussi de
combat.
Du combat et du sacrifice dans le sens de l'offrande, accepter de souffrir avec lui parce que lui a souffert, mais pour vivre aussi de sa vie.
Parce que vous me disiez, Rantaine, qu'il y avait quelque chose de viril dans l'appel qu'elle avait entendu.
Oui, alors
de Dieu à ce moment-là.
Y a, dans l'appel du règne, il y a un peu quelque chose de combatif, quoi. On s'offre comme des soldats s'offriraient à leur roi. Donc il y a quelque chose aussi, c'est vraiment le don de sa vie, jusqu'au bout. Y compris, ça peut passer par la mort. Il y a quelque chose de l'ordre du combat, de la guerre, quoi.
Odile Hardy, c'est comme ça que vous l'aviez compris quand vous êtes rentrée chez les Xavier? Vous êtes rentrée en...
Oui, je
dans l'ai... une légion romaine?
Non, je ne l'ai pas compris, mais ça, c'est un petit peu la trace de Saint Ignace. Voilà, l'héritage, l'image qu'on a d'Ignace, c'est souvent l'image du combattant, du soldat, en fait. Hein. Mais je crois que du point de vue spirituel, c'est plus profond que ça. C'est vraiment... revisiter le don de soi dans une vie pleine, et alors dans la peine et dans la joie aussi. Il y a quelque chose qui fait que on peut tenir dans des traversées difficiles, mais c'est pour rayonner de la joie du Christ. Donc si on veut, tout à l'heure vous avez pris l'expression de ambitieuse ou virile, moi j'aime moins, je pense que s'il y a une vraie ambition, elle est pour le Christ, elle est pour que le règne de Dieu arrive, elle est pour participer à l'avènement du royaume. D'ailleurs on s'appelle Xavier missionnaire du Christ, donc c'est vraiment l'engagement plein, total de sa vie à cause du Christ, pour le Christ, mais pas pour un combat, sinon c'est stérile. C'est en vue de rayonner de quelque chose de sa joie, c'est-à-dire de dire qu'il y a une bonne nouvelle, il y a un bonheur à vivre à la suite du Christ. Je crois que moi j'aime davantage être de ce côté de quelque chose d'heureux.
Alors un bonheur dès ici-bas, on en parlera un petit peu plus tard, parce que oui. Dans le livre, donc c'est maintenant le temps favorable, il y a un chapitre qui est de vous, dont l'intitulé, bon je le retrouve plus mais c'est pas grave, je fais toute chose nouvelle, la crise du Covid, un temps favorable, et puis vous dites la chose suivante, Dieu a créé l'homme à l'origine et le crée sans cesse chaque jour pour lui offrir de recevoir librement la communication de sa vie bienheureuse, maintenant, c'est ça?
Ah oui. Oui, maintenant.
Donc vous êtes là aussi pour signifier quoi? Que le royaume
Que le royaume est déjà là, voilà, et que nous participons participons à sa venue, et il faut s'y engager pleinement, il faut y croire aussi à ce que je mets dans ce livre aussi, hein. Croire que Dieu veut notre bonheur et croire qu'il y a des raisons de s'engager dans le monde et des raisons de chercher les signes des temps, ce qui émerge, ce qui germe, ce qui est de l'ordre de la vie, quoi.
Sophie Beauchamp.
Juste parce que par rapport à cette méditation, c'est l'appel du roi. Et donc, c'est une réponse. Il y a quelque chose, j'ai l'expérience que quelqu'un m'appelle. Et ça résonne en moi. Et donc, même s'il y a un aspect d'offrande, qu'on peut aller jusqu'au même offrande-sacrifice, c'est un peu la même dynamique. Hein, mais c'est quelque chose de l'ordre d'une réponse à un appel. Donc, j'ai accueilli quelque chose et je me donne... voilà, donc l'appel, quand on dit on est fille du règne, il y a aussi cette expérience que Dieu nous appelle, enfin il y a quelque chose d'un recevoir qui est premier.
Bénédicte Lamoureux, dans ce numéro de Dialogue, donc sur les 100 ans, donc c'est qui est votre revue, publiée à l'occasion de votre anniversaire, on voit que, comme dans toute congrégation religieuse, donc il y a régulièrement une manière de revisiter un peu ce qui vous fait vivre, et qu'en 2017, vous avez rechoisi d'une certaine manière comme un peu trois grandes attitudes, vivre l'hospitalité, prendre soin et consoler. Est-ce que vous pouvez éclairer ces trois trépieds, vivre l'hospitalité, prendre soin et consoler?
Alors oui, bien sûr, vivre l'hospitalité, c'est au quotidien s'accueillir les unes les autres, déjà en communauté, c'est accueillir évidemment au travail et partout, je dirais, l'autre tel qu'il est, y compris dans les transports, dans un groupe de gym, etc. L'hospitalité, c'est d'abord aussi recevoir le Christ en moi, faire l'espace pour lui en mon cœur et m'accueillir moi-même. Voilà, parce que pour accueillir les autres, il faut aussi que je m'accueille moi-même, que j'accueille le Seigneur et que j'accueille du coup dans la grande disponibilité l'autre quel qu'il soit. De toute culture.
Alors ça, c'est l'hospitalité. Prendre soin, c'est-à-dire pourquoi il y a un accent comme ça sur le soin?
Le contexte, Christine l'a un peu redit tout à l'heure, quand même le contexte dans lequel nous vivons actuellement, et ça s'est encore renforcé depuis ce chapitre 2017, avec la crise de la Covid, on le voit bien, beaucoup de gens ont du mal aujourd'hui, c'est difficile de vivre dans l'espérance, dans ce monde dans lequel nous vivons, dans notre Église aussi, qui est bien secouée. Et donc consoler, c'est rester enraciné dans ce don de Dieu qui nous est offert. On parlait de l'appel du règne, là. C'est vraiment, si tu savais le don de Dieu et de pouvoir vivre de ce don, de cette source majeure qui creuse notre élan vers le Christ et notre élan vers les autres en même temps, puisque c'est la même source. Et donc se prendre soin, il prend source dans le prendre soin qu'on reçoit déjà du Christ, qui nous console, qui nous touche, qui nous réconforte, disait il y a deux jours le texte de la première lecture, qui nous réconforte et donc a fortiori, nous portons cette consolation aussi aux autres, nous la recevons pour nous-mêmes, nous la portons aux autres autant que nous le pouvons dans les lieux qui nous sont donnés dans nos missions apostoliques.
Si on reste juste sur les débuts, si on revient un tout petit peu sur les débuts avec Claire Monastès, en fait, dès les débuts, semble-t-il, votre communauté s'est installée à Marseille, c'est ça? Et a essayé d'être attentive, en fait, aux situations les plus difficiles, aux plus pauvres? Quelle était un peu la jeunesse de la mission?
Les missions de midi, c'était ça. C'était des petites missions courtes entre midi et 14h, où Claire Monastès avait senti une sorte de désarroi auprès de ce qu'elle appelait les midinettes, des jeunes femmes au travail, dans des usines diverses, qu'elle a regroupées autour d'un petit restaurant. Et elle faisait des petits briefings de 10 minutes sur l'éducation des enfants, le bonheur, que sais-je. Des choses très humaines, très profondes, mais aussi très spirituelles qui les rejoignaient au cœur. Et du coup, elle s'est fait des adeptes un peu comme ça. Puis ses missions se sont développées, elle a fait venir des prêtres, etc. Et c'est comme ça qu'est née un peu aussi la Xavière. Claire avait pris, entre autres, inspiration auprès des sœurs du Cénacle, qui étaient marquées, qui faisaient des choses autour de cette... qui avaient aussi des missions de ce type-là.
Alors, on va se plonger avec vous, donc maintenant, Odile Hardy, un petit peu dans cet ouvrage. Donc, c'est maintenant le temps favorable, 5 regards de femmes sur la crise, paru aux éditions de l'Emmanuel. On en a parlé pas mal dans la presse, c'était donc au début de l'année, puisque ce livre est paru en février. Et puis, on a entendu, entre autres, Nathalie Bécard, signe un chapitre dans cet ouvrage, qui est donc Xavière, et qui est cette femme qui maintenant travaille au Vatican, auprès du synode des évêques, et qui a fait parler d'elle puisqu'elle est la première femme donc, à avoir droit de vote à l'occasion de ce synode des évêques. Mais ce n'est pas vraiment le sujet là. Donc vous avez écrit un livre pour relire ensemble la crise que l'on traverse. Ça fait un peu écho presque à ce que faisait votre fondatrice hein, auprès des midinettes. Alors maintenant les midinettes c'est nous tous, vous nous prenez par la main. Vous commencez par vous présenter. Et puis vous avez vous relevez 3 choses qui vous frappent ou qui vous ont frappé. On va commencer peut-être par ça. Quand vous êtes arrivé en France et que vous reprenez après comme outil de relecture, c'est le rapport au temps, l'individualisme et la méfiance qui vous a frappé quand vous êtes arrivé en France, si j'ai bien compris. Voilà, le rapport à l'autre. Alors, il faut dire que vous venez aussi de l'île Maurice, pour vous présenter brièvement. L'île Maurice, c'est loin, c'est une autre culture, et là-bas, on prend un peu plus le temps. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur ces 3 points, rapport au temps, individualisme et méfiance ?
Oui, parce que juste pour rappeler un peu le tempo de ce livre et la consigne qu'on avait eue à la base, c'est de dire d'où nous parlions chacune, pas raconter notre histoire, mais en fonction de notre unicité, quels étaient nos points d'attention et nos points de relecture de la crise, et d'ouvrir dans une perspective d'espérance. Donc moi, voilà, c'est venu comme une évidence. Moi, mon champ de réflexion, c'est plutôt l'anthropologie et la spiritualité, donc je suis assez travaillée par la question de l'homme contemporain et de la question du sens. Et arrivant en France il y a quelques années, venant d'une autre culture qui est assez mélangée quand même, hein, où il y a des
très mélangés,
très mélangés d'origine, de religion, d'origine différente. Voilà, j'ai été, et pourtant étant de descendance française, mais il y a déjà 5 ou 6 générations depuis mon père, frappé de ce rapport au temps. Il est connu que les insulaires prennent le temps, voilà, de vivre, même si la mondialisation...
Vous avez même un accent un peu nonchalant parfois.
Oui,
vous l'avez un peu perdu quand même. Mais...
Oui, ça arrive, oui, ça dépend des jours et à qui je parle. Voilà. Mais oui, ce rapport au temps, bien, je le redis, que la mondialisation, elle soit déjà arrivée à l'île Maurice aussi. Mais je m'intéressais au rapport au temps comme plutôt dans la dimension spirituelle, de ce temps plein, de ce temps pressé, de ce temps qui nous oppresse et qui finalement empêche de descendre en soi, de prendre le temps, de bien écouter, et qui sont souvent source de malentendus, c'est-à-dire qui court-circuitent le temps indispensable de la relation, de la bienveillance. Alors, quand je dis ça, je ne fais pas un en soi. Bien sûr que ça existe, des lieux et des personnes où la relation... Mais je pense qu'on a besoin de prendre le temps de s'arrêter, de relire, d'écouter, de descendre en soi l'intériorité. Comme vous le savez, j'ai travaillé Zendel, il parle beaucoup de ça, Boris Zendel.
Alors, ça, j'ai envie de dire, souvent, oui, c'est un peu, les religieux ou les religieuses que vous êtes nous aident à nous rappeler qu'il faut avoir ça au cœur de nos vies. Mais là, à vous lire, vous, comme d'ailleurs à la suite du pape François, vous reprenez des expressions qui pourraient être les siennes, dans le moment décisif qui est celui de cette crise, là, il y a comme un impératif, en fait, à vous lire, c'est ça ?
Oui.
Il faut changer de rythme.
Oui, il faut changer de
rythme. Si on reste
sur
ce premier point.
Oui, parce que à ne pas prendre le temps ou à se laisser manger par l'immédiateté, on s'ancre plus dans le passé et l'avenir devient obscur, voire pas optimiste. Je veux dire, on n'y croit plus. Or, le fait de s'arrêter, de prendre le temps, de regarder, d'écouter, de regarder avec un regard autre, eh bien, on voit bien ce qui est du côté de la vie. On peut le percevoir. Mais si on reste tout le temps en surface et qu'on va trop vite, qu'on s'arrête pas, eh bien, je pense qu'on manque. On n'arrive pas à regarder ce qui est du côté de la vie, et on risque d'être assez souvent du côté ténébreux, opaque de la vie. Et ça, c'est une source de désespérance. Donc oui, ça m'a marqué. Et avec ce qui se passe ces dernières années, on voit bien que En Occident, on a plutôt tendance à désespérer de l'avenir qu'à l'aimer, qu'à le vouloir, et qu'à c'est aussi dans le livre, et qu'à mettre en œuvre notre volonté, notre liberté, notre désir de le construire ensemble.
Voilà. Deuxième point qui vous a frappé quand vous êtes arrivé en France, c'est donc l'individualisme. Sauf erreur de ma part, même si je ne retrouve pas complètement ce que je voulais citer dans votre chapitre, c'est aussi un des outils que vous prenez pour la relecture, en tout cas individualisme et confiance. Qu'est-ce qui vous a frappé? Et puis là, aujourd'hui, à quoi vous nous invitez dans cet ouvrage?
L'individualisme, je le dis aussi, n'est pas mauvais en soi. La prise de conscience de soi, l'homme qui... peut exercer sa liberté dans une certaine autonomie. Mais quand ça devient un empêchement d'aller vers les autres, quand chacun se pense en autonomie et que le lien est coupé, là on rejoint profondément notre charisme de Xavier. On a un charisme de lien, des réconciliations, d'unité, d'aller, tout à l'heure Christine l'a dit, vers ceux qui sont plus loin. Eh bien, l'individualisme ne permet pas ça. Quand on isole des individus, on se coupe de la relation.
Et juste quand vous dites que les Xavier ont un charisme d'unité,
de réconciliation,
vous l'expliciter ça?
Oui, on peut se compléter là-dessus, mais il y a aussi le sint unum que Claire a entendu, que tout soit un. C'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup frappé Claire, et il y a ce travail d'unité qui était aussi à l'origine pour Claire un travail de rapprochement œcuménique.
Quelle forme ça prenait à son époque? Parce que qu'est-ce qui résonnait douloureusement, on va dire, à son époque?
En fait, Claire, au moment de la guerre, a été infirmière à Marseille et elle a été en contact notamment avec des Russes orthodoxes. Et là, elle a été sensibilisée, donc l'unité d'abord des chrétiens. Mais après, il y a eu quelque chose pour elle de plus fondamental. On reprend l'hymne de Saint Paul, une lettre de Saint Paul qui est le Christ qui récapitule tout. Et donc, ce désir d'unité et de réconciliation s'est tourné vers le Christ qui veut rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Il y a quelque chose de tout récapituler en Christ.
Alors, cette, entre guillemets, parenthèse faite, Olivier Lardic, si on revient donc sur individualisme et confiance la phrase que Jean-Pierre Denis retire de votre ouvrage, c'est « La crise est une expérience éprouvante, mais elle exige que nous la pensions comme l'occasion d'un véritable retournement, une conversion ». Le pape François dit la même chose, ou vous, comme le pape François, c'est tout comme. Ça donnerait quoi, en fait? À quoi vous appelez dans votre livre comme incitation au-delà de la relecture spirituelle sur ce point de l'individualisme et de la confiance?
Je pense qu'il faut retravailler au lien, qu'il faut la confiance dit bien cela. Le contraire de la confiance, c'est pas la méfiance, c'est la peur. Arrêter d'avoir peur les uns des autres et penser que ce n'est qu'ensemble, et le pape François le dit, alors là je le copie, là c'est ça, que ce n'est qu'ensemble qu'on peut construire un avenir meilleur. Donc pour moi, l'enjeu, c'est de retrouver la confiance, de se dire que ce n'est qu'ensemble, et dans un lien en confiance. Alors ça s'exprime dans des lieux très concrets, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de communauté, en famille. On peut pas continuer à avancer tout seul. La confiance, pour moi, va de pair avec le lien, la réconciliation, mais surtout œuvrer ensemble à la construction d'un avenir meilleur. Rien ne se fera. On le retrouve dans Laudato si, cette idée-là. Je crois que ça, c'est important. Alors, bien sûr, moi, je viens d'une culture où il y a un a priori de confiance, une espèce d'accueil bienveillant, mais c'est pas mon modèle.
On n'est pas très loin de Madagascar, c'est pour
oui,
ça.
Oui, c'est les îles. Voilà.
C'est un nom d'ailleurs là-bas, non? C'est...
Je ne connais pas très
l'espèce
bien.
Une espèce de bienveillance ou de nonchalance.
Un accueil spontané, c'est, pour certains c'est naïf, mais je pense que ça a sa valeur aussi. Ça a vraiment sa valeur. Il n'y a pas d'a priori.
Il faudrait que notre conscience puisse être contagieuse afin de venir faire comme un contrepoids aux errances de l'homme d'aujourd'hui, dites-vous. Il faut être des éveilleurs. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va retrouver pour continuer à parler d'Xavier. Avec en ligne de mire, donc vous êtes des religieuses, donc vous vous consacrez et vous faites des vœux, donc pauvreté, chasteté, obéissance. Alors c'est vrai que comme vous êtes entre guillemets apparemment un peu plus comme nous, eu égard à votre tenue entre autres, peut-être ça peut venir nous interroger. C'est peut-être d'ailleurs le cas parfois dans vos lieux de travail, puisqu'on a oublié de le dire, mais la plupart d'entre vous, vous avez des métiers comme tout à chacun. On s'arrêtera donc sur ces vœux, et puis je vous demanderai quelques perles spirituelles qui illustrent cette grande amitié, ou plus, que vous essayez de vivre avec le Christ.
Radio Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
À la découverte d'Xavier, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui par hasard nous rejoindraient, autour du plateau, Christine Danel, Odile Hardy, Bénédicte Lamoureux et Sophie Beauchamp, toutes quatre Xavier. Christine Danel était avec nous en début d'émission, c'est la supérieure générale d'Xavier, elle était avec nous en direct depuis Paris. J'aimerais donc qu'on s'arrête sur vos vœux. Alors charge à vous, puisque c'est semble-t-il, vous êtes passionné du Christ et passionné du monde, avez-vous dit au début de l'émission, ce qu'a dit votre supérieure générale et votre fondatrice. D'essayer de nous faire entrevoir ce que vous vivez et puis qu'on puisse avec vous peut-être toucher du doigt quelque chose de Dieu, quelque chose du Christ à travers ses vœux. Alors si on commence avec vous, Bénédicte Lamoureux, qui dit religieuse dit vœux, jusque-là pas de surprise. Comment vous pourriez nous présenter ces vœux? En fait, dans le fond, pourquoi on fait ces vœux quand on est religieux ou religieuse?
Bah, d'abord pour mieux suivre le Christ de façon radicale, je dirais. Puis c'est aussi une proposition que nous fait l'Église, bien sûr. Parce que dans l'Église, il y a de la place pour tout le monde. Il y a aussi des laïcs consacrés qui ne font pas forcément les trois vœux. Il y a évidemment le sacerdoce et puis il y a évidemment les couples mariés. Et donc nous, c'est une manière de réaliser notre baptême dans la radicalité de la suite du Christ.
Mais alors, c'est-à-dire, pardon de vous couper, parce qu'il y a aussi de la radicalité à suivre le Christ dans une vie de mariage. Donc
bien
là,
sûr.
en quoi ça, comment dire, ça vous aide à rejoindre le Christ? Où est la radicalité?
Eh bien, que c'est un amour de préférence. Alors, ben, par exemple, prenons le vœu de chasteté, puisque c'est souvent un vœu pour lequel l'entrée au début de la vie religieuse est un lieu, enfin, ça dépend des personnes, selon l'histoire. En tout cas, pour moi, ça a été peut-être un des lieux de combat d'entrée, en disant, mon Dieu, je n'aurai jamais d'enfant, j'aurai jamais de mari. Est-ce que je vais pouvoir vivre affectivement toute ma vie seulement avec le Christ dans mon cœur et voilà, et pas pouvoir prendre quelqu'un dans mes bras et pas avoir de bébé à dorloter. Oui, voilà, nous faisons le pari que cette vie avec le Christ, elle peut combler notre cœur et tout notre être. Voilà, et donc ce manque radical, parce que c'est de l'ordre d'un manque qu'on peut ressentir à certaines périodes de notre vie plus fortement qu'à d'autres, comme toutes les femmes, nous avons nos étapes physiologiques, voilà. Et donc ce manque, eh bien, il est transcendé par cet amour que nous recevons chaque jour dont nous parlions tout à l'heure, voilà, qui irrigue notre manière d'aimer et qui va faire qu'on sera féconde dans nos missions parce qu'on sera irrigué par cet amour premier. Voilà. Et qui prend toute la place.
Dans votre revue Dialogue, on peut trouver de nombreux témoignages, entre autres celle d'une de vos sœurs qui dit « Très tôt dans ma vie, j'ai fait l'expérience de la tendresse et de l'amour de Dieu pour tout homme et toute femme. J'ai désiré y répondre par le don de tout moi-même pour aimer comme le Christ qui nous aime. » Ça, c'est pour la chasse.
Ça nous permet d'aimer de façon universelle, voilà. De façon plus vaste.
C'est-à-dire, parce que, entre guillemets, comme il y a entre guillemets, un sacrifice, il y a une plus grande disponibilité, c'est comme ça qu'il faut le comprendre?
Oui, c'est ça, c'est une plus grande disponibilité, mais il n'y a pas de privilège pour quelqu'un, il n'y a pas de relation d'intimité avec une personne autre que celle du Christ. Et ce centrement, cette intériorité, cette union, parce qu'on parle d'union au Christ, hein, cet être avec, eh bien, il nous propulse vers les autres, bien sûr, pour donner cet amour, parce que un amour dont nous ne serions pas rayonnantes, quelque chose de... Il ne serait pas un amour, en fait. Voilà. C'est donc à partager, bien entendu, dans la louange et dans la joie.
Alors ça, c'est pour la chasteté. Pauvreté ou obéissance, je ne sais pas si... Allez, Sophie Beauchamp, pauvreté, comment vous en parleriez?
Alors, pauvreté, c'est un vœu un peu complexe parce qu'il a différentes composantes. C'est pauvreté et mise en commun des biens. Donc, on ne fait pas vœu de misère, quoi. Et on ne manque de rien. Mais pour faire vite, je ne dispose de rien en propriété. Tout ce qui appartient à la communauté. Je n'ai pas de voiture personnelle, mais la communauté a une voiture. Quand j'arrive dans une communauté, je ne viens pas avec mes meubles. Je m'installe dans quelque chose qui me préexiste. Et si
j'ai un héritage, je mets l'héritage en commun?
Alors si j'ai un héritage, je mets... c'est plus compliqué que ça, mais je peux faire un testament, je décide de ce que je fais de mon héritage, je peux choisir de le léguer à mes frères et sœurs ou à la Xavier, et je peux même aller jusqu'à renoncer à tous mes biens, y compris héritage. Mais alors, ça demande un...
Si vous deviez mettre en perspective ce choix, en fait, là aussi, en quoi ça parle de celui que vous essayez de suivre ou d'aimer?
D'une certaine manière, on pourrait dire que mon seul bien, c'est mon désir de suivre le Christ parce que ma vie dépend de lui. Et voilà, c'est mon unique bien. Je ne possède... Je viens à lui les mains vides, quoi. Et je n'ai pas besoin de posséder. Ouais, et peut-être ça dit aussi quelque chose d'un aller ensemble. Voilà, la mise en commun des biens, je suis avec d'autres. Je reçois d'autres, la richesse, parce que dans la pauvreté et la mise en commun des biens, c'est pas uniquement des biens matériels, mais tout ce que je possède comme don, je ne les garde pas pour moi-même. Et j'accueille les dons des autres, enfin voilà, il y a quelque chose aussi qui parle de la relation, d'une disponibilité, d'une vie simple aussi, voilà.
Obéissance, Odile Hardy, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, sur le vœu d'obéissance? J'ai noté une phrase que j'ai trouvée très belle dans vos constitutions, que vous citez toujours dans ce numéro de dialogue. Pour nous, l'obéissance, c'est un acte de foi.
Oui, Oui, c'est un acte de foi. Je vais revenir au petit mot. Foi et confiance, ça va de pair. Hein, c'est la même racine. C'est d'abord une écoute commune de l'esprit pour les trois vœux. C'est-à-dire écoute. Et ça se fait. C'est pas pour rien que notre revue s'appelle Dialogue. Hein, tout ça se fait dans le dialogue. Les trois vœux se vivent dans le dialogue avec nos supérieurs, que ce soit la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Mais en particulier, l'obéissance, c'est une remise de soi à un autre, ne pas vouloir. Voilà, on, bien sûr qu'on a notre liberté, mais sa volonté propre, voilà, elle est remise, mais dans une écoute, dans un dialogue. Moi, j'aime bien une petite phrase de Claire qui dit « vouloir si vite ce que Dieu veut qu'on ne sait qui de lui ou de nous a voulu le premier ». C'est-à-dire, c'est s'ajuster à la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'ai mis l'écoute de l'esprit, Alors, commune, parce que c'est avec les supérieures, elles écoutent leur communauté, elles écoutent leurs sœurs, elles écoutent aussi les constitutions. Hein. Voilà, on écoute Dieu, on écoute l'esprit, on écoute les supérieures, on écoute la communauté. On écoute, on est à l'écoute des constitutions. Ce qu'on met en œuvre à travers ces différentes médiations, la volonté de Dieu, c'est ça qui est derrière. Voilà. C'est pas une castration la volonté. C'est pour un déploiement, l'obéissance.
C'est pas une soumission.
C'est pas une soumission. C'est vraiment un déploiement heureux de notre liberté qui signe que nous, ce que Sophie a dit, nous y allons ensemble. Voilà. Allons-y. Claire dit une petite phrase comme ça, je ne me rappelle plus. Que nous y allons ensemble.
Pour finir, je vois le temps qui passe et j'aimerais qu'on s'arrête sur quelques perles spirituelles. Alors libre à vous de les partager ou pas. En tout cas, vous, Sophie Beauchamp, vous êtes prévenue. Vous allez passer à la casserole. C'est vrai que quand on fréquente des femmes comme vous, qu'on s'en rende compte ou pas, c'est pas le cas de tout le monde, mais bon, en tout cas, on espère que le plus grand nombre vous croise. Il y a toujours quelque chose un peu de mystérieux sur ce qui vous fait vivre. Et alors, cette revue Dialogue, on trouve quelques partages, on va dire, d'expériences spirituelles. Vous parlez, Sophie Beauchamp, de la prière. Vous dites que vous avez traversé donc des périodes de grands vides à propos de la prière, des grands déserts, et qu'est née de ça une foi encore plus solide. Ma prière est aujourd'hui fortement fondée dans la foi en sa présence. Le Seigneur est là, même si je ne le perçois pas, même si je ne l'entends pas. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager un peu sur ce compagnonnage, ce grand amour d'une certaine manière qui parfois a été silencieux?
Oui, je dirais, quand j'ai choisi la vie religieuse, je désirais une intimité profonde avec le Christ. Et l'image qui me venait, c'est la montagne de la Transfiguration. J'aurais dit avec Pierre, plantons donc trois tentes ici. Mais voilà, pour vivre quelque chose d'un sentir fort, d'une communion avec le Christ. Je me suis vite rendu compte que ça n'était pas le cas et que le Christ m'invitait à descendre de la montagne et à être dans la Galilée qui était la mienne. Et ma Galilée était assez désertique, de fait.
C'est-à-dire que la Galilée va avec une sorte de nuit, quelque part, ou...
Alors, dans mon expérience...
Nuit d'essence, en tout cas,
oui,
comme on
dans
dit.
Mon expérience, il y a quelque chose d'une certaine aridité... qui a été difficile vraiment à traverser et en même temps qui peut-être m'a mise à l'essentiel, ce que je dis là sur la foi en une présence, c'est de l'ordre de la foi vraiment. J'aime beaucoup Thérèse de Lisieux, même étant ignatienne, j'aime beaucoup Thérèse de Lisieux et elle a un poème qui commence, qui est inspiré de Jean de la Croix, mais elle dit « appuyer sans aucun appui ». Donc je suis appuyée, bien sûr. Le Christ est mon roc. Mais parfois j'ai l'impression que l'appui n'est plus là. Je le sens pas. Et pourtant je suis appuyée sans aucun appui. Il y a quelque chose d'un abandon qui n'est pas une démission. Qui me fait quitter aussi mes rêves de jeune fille, quoi, de voilà le prince charmant. Enfin, on pourrait dire Jésus était mon prince charmant. Ben non, c'est pas de cet ordre-là.
Pour finir, Odile Hardy, je vous incite à faire de votre perle spirituelle, mais je crois que vous en êtes d'accord. Donc la question de l'émerveillement, c'est par ça que vous finissez votre chapitre dans cet ouvrage de nombreuses fois cité. Je redonnerai le titre à la toute fin de l'émission, donc tout bientôt. Pourquoi vous vouliez vous arrêter sur l'émerveillement et qu'est-ce que ça dit un petit peu de votre chemin spirituel?
Bon, c'est aussi un héritage de mon compagnonnage avec Maurice Handel, mais pas que. Je pense que c'est une attitude spirituelle indispensable, aujourd'hui en particulier, mais de toujours à toujours. Merveillement, c'est pas une attitude béate. C'est vraiment une force de pouvoir se laisser déplacer, déranger, voilà, de laisser surgir l'inédit dans nos vies, voilà, d'accueillir l'altérité et de s'en étonner avec amour, je dirais, avec espérance. Pour moi, l'émerveillement est très lié à l'espérance. Alors, si on peut...
En quoi ça parle de vous, si je peux me permettre ?
Pour moi, je crois que c'est aussi... Enfin, c'est entrer dans la confiance et entrer dans l'émerveillement, c'est-à-dire, moi, ça m'invite à avoir un regard nouveau sur les personnes, au milieu des turbulences de notre monde, sur le monde. Qu'est-ce qui me laisse en état d'émerveillement ? Ça creuse pour moi un sillon, une marche en avant, quand bien même j'ai envie de m'arrêter parfois. Je me dis, oh là là, c'est désespérant. Eh bien non, je vois que... Il y a quelque chose qui peut surgir dans une relation, dans le travail, dans la communauté, et qui me fait dire, le Seigneur est là. Et il m'invite à avancer. Voilà, je pense à la Samaritaine, je pense à Pierre qui marche sur les eaux. Il est là, voilà. Et il nous donne ces signes qui nous disent « la vie est encore là, tu peux la prendre, tu peux la saisir et tu peux avancer, mais ça suppose une conversion du regard et de l'écoute ».
Eh bien, merci de nous avoir fait découvrir les Xavières et puis de nous avoir parlé un petit peu de vous. Je rappelle le titre du livre qu'on a de nombreuses fois cité, c'est maintenant Le Temps Favorable, paru aux éditions de l'Emmanuel. On peut dire aussi pour ceux qui sont dans la région, donc ils sont quand même assez nombreux, région toulousaine, j'entendais peut-être davantage, le 18 juin, vous fêtez votre anniversaire à la paroisse Saint-François d'Assise. Rendez-vous est donné à 17h et il y aura tout ce qu'il faut comme festivité, une messe entre autres, elle, à 19h15. Un grand merci, 18 juin, paroisse Saint-François d'Assise, on redonnera toutes ses actualités dans Église Actualité, justement. Merci. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.